Et bonjour tout le monde et bienvenue dans Contrôle Technique. Oui, super, merci, merci, merci. C'est la première de Contrôle Technique. Contrôle Technique, c'est quoi ? Au-delà d'être un jeu de mots absolument extraordinaire, bien sûr, c'est l'émission de Canard PC Hardware. Ça y est, enfin. L'émission de Canard PC Hardware, après celle de Canard PC tout court, parce qu'il n'y en a pas que pour les jeux vidéo dans la vie, il y en a aussi pour le matos. Et c'est une émission que je vais avoir évidemment le plaisir d'animer avec mon camarade.
Agbou, il s'appelle.
Oserais-je dire mon bro
Agbou. Bro, exactement.
Comment ça va, Agbou?
Mais quelle émotion de démarrer une nouvelle émotion, une nouvelle émission.
Une nouvelle émotion.
Une nouvelle émission avec toi. Ça me fait extrêmement plaisir.
Émotion partagée. Du coup, voilà, on va être là pour à peu près une heure à parler un peu de plein de sujets tech, enfin, de l'actu, de tout ça.
Des vrais sujets.
Pas le jeu vidéo. Qui intéresse la France. C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler d'écran OLED de nouvelle génération, parce qu'il y en a plein qui arrivent en ce moment. On va parler de SSD. Attention, on a sur le plateau le SSD le plus rapide du monde.
C'est vrai ?
Ouais.
Du monde ?
Le plus rapide du monde. Il n'y en a qu'un seul. Non, il y en a plusieurs. Mais c'est le plus rapide du monde. Mais avant ça, on va faire quelques news, des petits pépites de l'actualité récente de la technique et du hardware.
Et peut-être présenterions-nous le numéro matos.
C'est pas bête ce que tu dis. C'est là qu'on voit le présentateur qui a l'expérience.
On va finir par se trouver.
On ne confond pas avec celui qui improvise comme il peut et qui sent déjà qui sent déjà la chaleur monter là. Ouh là là.
Allez.
Alors. Du coup, le nouveau numéro de Canard PC Hardware, il est là et c'est une exclue. Il sera en kiosque ce vendredi avec en couve, voyez-vous. Tiens, dis-moi ce que t'inspire cette couve.
Eh bien, écoute, elle m'inspire le voyage, elle m'inspire l'exotisme, elle m'inspire le rêve, elle m'inspire même un petit peu l'érotisme, parce que Dieu sait si la nouvelle ère de l'impression 3D...
C'est qu'on peut en imprimer des choses avec des imprimantes 3D.
De quoi tu parles ? GeForce 4 RTX, 4 Super, ok, d'accord. Manette PlayStation Access, qu'est-ce que c'est ce machin ?
C'est le truc,
la manette quand on a des problèmes, d'accord, ok.
Voilà, tout à fait, pour les personnes en situation de handicap.
Et puis guide d'achat, CPU, machin, et puis les écouteurs gaming sans fil.
Et ça, c'est un sujet qui te parle.
Qui me tient à cœur.
Tu veux que je te dise, je l'ai écrit pour toi ce sujet.
Oui, je sais qu'on en parlera déjà, parce qu'on a déjà les sujets de la prochaine émission dedans un mois. Ça sera notre sujet,
les écouteurs. Oui, un truc que je crois que j'ai pas dit, c'est une émission mensuelle, du coup, que vous retrouverez, du coup, à peu près une fois par mois, toujours comme ça, en access prime time de l'émission CPC, le mercredi. Pour bien vous chauffer avant un peu, j'ai envie de dire, le programme phare vraiment de cette rédaction.
Peut-être faut-il préciser aussi qu'il y aura cette émission qui va durer une heure et puis qu'après, il y aura un stream. Chat, tu confirmes ?
Tout à fait.
On aura un stream pour faire la voilà.
Ce sera Isual qui va vous accompagner juste après la fin de cette émission sur American Truck Simulator. Il vous tiendra compagnie pour patienter avant l'émission de soir que tu présenteras, je crois.
Oui, donc de 17h30 à 21h30, c'est full Canard PC, complète, totale.
Le marathon.
360 Noscope, 100%, 420-69, YOLO.
Les news. Est-ce qu'on partirait pas sur les news et
je vais les lancer.
Tu vas nous lancer. Tu vas nous lancer les news.
On va parler des news du matos qui sont sortis. Voilà. Il y a Intel.
Tout à fait. Ou Intel.
Connu. Qui vient de lancer le 14900KS. Et je crois que tu n'en as absolument rien à battre.
Alors, si, un petit peu, sinon je l'aurais pas mis dans le conducteur.
Qu'est-ce que tu m'as dit un petit peu pendant l'émission ? Tu m'as dit quand même, encore un 14900 machin.
Non, voilà, on se sent obligé du coup de parler comme ça. À chaque fois que Intel lance un nouveau CPU de bureau, c'est quand même un petit peu un événement. Alors, le 14900KS, pour ceux qui ne voient pas, les processeurs KS, ça fait plusieurs générations qu'il y en a chez Intel. En gros, tu prends le processeur le plus haut de gamme de la génération en cours, tu prends des exemplaires, ce qu'on dit binés, c'est-à-dire qu'en gros, parmi tous les exemplaires qui sortent de l'usine, tu prends ceux qui sont de la meilleure qualité, donc qui vont pouvoir monter le plus haut en fréquence sans surchauffer, sans partir en combustion spontanée, et tu les revends un petit peu plus cher avec, en substance, un overclocking d'usine.
Qui monte à combien là ?
Donc qui monte à 6,2 GHz.
Alors c'est bien beau, mais en fait pour le jeu vidéo ?
Alors pour le jeu vidéo,
joueur lambda.
Ne parlons même pas de jeu vidéo, parlons seulement de trucs tout court, de performance de performance brute. Ça veut dire en gros, par rapport au 14900K de base, environ 2,5% de performance supplémentaire.
Super.
Voilà, ça c'est pas. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai testé, mais vous pouvez aller voir les tests de nos confrères chez Tech Power Up, chez Hardware & Co., chez Tom's Hardware, tout ça.
C'est important
d'être fair play avec les confrères, s'il te plaît. Voilà. Donc, ils vous expliqueront que du coup, c'est plus de 2,5% de performance.
Juste un petit truc annexe, on est d'accord qu'aujourd'hui, si on veut acheter un CPU pour le jeu vidéo,
X3D.
Oui, AMD, c'est...
5800 X3D, 7800 X3D,
et
7900 X3D.
Depuis peu, 5700 X3D.
5700 X3D. Et quand est-ce qu'arrive la prochaine génération de X3D? Parce que j'ai déjà commencé à alimenter mon livret A.
Bah alors écoute, chez AMD, normalement, la prochaine génération de CPU, c'est à la fin de l'année. Okay. Y a du Zen 5 qui devrait arriver. Okay. Alors comme d'habitude, on va commencer par les processeurs Zen 5 classiques et les X3D devraient arriver un peu plus tard. Enfin, à moins qu'il y ait un changement de...
Début 2025, un truc comme ça.
Mais du coup, voilà. Mais après, bon, c'est le grand classique. Si t'attends à chaque fois que la nouvelle génération sorte, t'achètes jamais rien. Honnêtement, déjà aujourd'hui, même un 7800 X3D, c'est un peu surdimensionné pour tout, en fait. T'achètes ça aujourd'hui, c'est pour l'avenir. C'est pour le garder arriver, de très nombreuses années.
Alors, je vais pas acheter de 7800 X3D parce qu'il faut quand même changer de carte mère quand on a un 5800.
Voilà, il y a déjà ça.
Ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que j'alimente mon livret A pour me prendre la prochaine génération. C'est le grand retour. Enfin, le grand retour du minage de crypto-monnaies. Cette espèce de lèpre informatique qui nous a fait tripler le prix des GPU depuis quelques années.
Et maintenant, les crypto-monnaies sont à l'assaut des CPU.
Ah.
Parce que, donc voilà, on a eu ces derniers mois un petit regain de forme de certaines des crypto-monnaies stars, notamment l'Ethereum et le Bitcoin, hein, bien sûr, qui ont entraîné avec elles un peu tout le marché de la crypto. Et soudain, il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, on va recommencer à miner de la crypto. Alors, pas du Bitcoin et de l'Ethereum, parce que ça fait très longtemps qu'on peut plus vraiment en miner.
Ouais. Ouais, par contre, que le Bitcoin et l'Ethereum, ça se mine maintenant sur des gros trucs spéciaux.
Surtout l'Ethereum, depuis qu'il y a eu le fameux merge, en fait, tu peux vraiment physiquement presque plus miner ça sur des GPU. Maintenant, c'est plus une question de stockage. Enfin, c'est très compliqué. Puis j'avoue, je n'y connais pas grand chose, ça ne m'intéresse pas des masses. Bref, le truc là, maintenant, il y a une nouvelle monnaie en fait, à laquelle beaucoup de gens se sont intéressés, qui est le Cubic.
Je ne connaissais pas.
Voilà. Et le Cubic, alors pour le coup, ça ne se mine pas sur des GPU, ça se mine sur des CPU, et notamment les CPU AMD Ryzen haut de gamme, parce que c'est des CPU qui sont très très bons sur le jeu d'instruction AVX 512.
Oui, je l'avais lu ça. Oui, effectivement. Je voulais le sortir pour faire un petit peu cultivé, dire oui, il y a le jeu d'instruction, machin, tu l'as sorti avant moi, mais c'est très bien. Et donc, pour rappeler ce que font les mineurs, c'est qu'ils minent du Cubic, je pense, corrige-moi si je me trompe, ils minent du Cubic et ensuite ils vont échanger leur Cubic contre du Bitcoin ou de l'Ethereum, parce que le Cubic, ça doit être ce qu'on appelle une shitcoin.
C'est un peu ça, ouais.
D'accord, ok.
C'est un peu ça. Oui, le Cubic, ça vaut absolument que dalle.
Une monnaie de merde qui sert juste à être échangée en Bitcoin et Ethereum. Donc, ça veut dire que Ryzen et tout, ça va augmenter ?
Alors, la finalité, c'est que du coup, voilà, il y a des gens qui ont pris un petit peu panique, parce qu'effectivement, aux États-Unis surtout, où vous savez qu'aux États-Unis, tous les composants ont tendance à être beaucoup moins chers qu'en Europe, il y a eu effectivement des petites pénuries sur le Ryzen 9 7950X, notamment. Alors, déjà, bon, c'est pas des puces qui intéressent beaucoup les joueurs de base, c'est des trucs très haute performance pour la productivité surtout. Et surtout, en fait, là, on voit que le cours, du coup, de l'Ethereum et du Bitcoin est déjà en train de se repéter la gueule, finalement, depuis quelques jours, là. Ouais. On est déjà reparti sur des tendances à la baisse. Donc, globalement, pas de panique. Si vous voyez des news un peu partout qui vous disent que vous n'allez pas pouvoir acheter de CPU, dans les semaines qui arrivent, bon, ne vous inquiétez pas trop.
Les Bitcoins, là, ils sont pris combien, toi ?
J'en ai pas. J'ai jamais eu de Bitcoin, moi.
C'est dommage. C'est dommage. Non, voilà.
Oui, je sais bien. Je ferais pas ce métier si j'en avais jamais eu.
Le JDEC. Alors, qui c'est le JDEC ? On ne sait pas. C'est le Joint Electron Device Engineering Council. Donc, on imagine des barbus... des ingénieurs barbus.
Un consortium de plusieurs entreprises qui définit les standards.
Voilà. Donc là, ils ont officialisé la GDDR7. Alors moi, ça fait... des années que j'en ai plus rien à foutre du type de RAM que j'achète, parce que je sais qu'en fait, ça va juste augmenter mes FPS de 0,03%. Il y aura de la GDDR7 dans les RT, dans les...
Oui, de toute façon la GDDR, typiquement, c'est pas de la RAM que tu choisis d'acheter, c'est juste de la RAM qui est embarquée dans les GPU.
La RAM vidéo qui va être dans les GPU,
c'est ça. Exactement. Bon, donc là, en l'occurrence...
Intérêt de la news,
et parce que en gros, c'est le premier truc concret qu'on a sur les nouvelles générations de GPU, qui arrivent aussi, normalement, en fin d'année.
Okay.
Donc on sait notamment, il y a le très célèbre leaker Copilot7 Kimi, ce sont noms bizarres qu'il a sur X, où il leak toutes ces infos et qui nous dit qu'il y aura de la GDDR7, notamment dans les RTX 50, qui devrait commencer à débarquer à partir de la fin de cette année.
Donc fin de cette année, on a les GeForce 5000 quelque chose.
Ouais.
Et on a les AMD X3D peut-être fin 2024. Non, sera, non, parce que je veux upgrader ma config. Donc,
ouais, je pense que ce sera plus tard. Je pense que ce sera vraiment.
Très bien. Tu sais qu'on aura le 13e mois en plus.
Ouais.
Bien. Enfin, j'espère. on croise les doigts, Yvan. Hein. On va parler maintenant de. Alors, c'est un sujet. Sujet important, cher à mon cœur.
Très important.
Parce que vraiment, moi, je trouve que c'est la grande révolution de ces dernières années. Donc, tout le monde savait que le NVIDIA a mis au point le DLSS, qui est un système d'anti-aliasing qui marche très bien. Si vous ne l'avez pas utilisé, par exemple, sur Cyberpunk, vous avez quelque part un peu raté votre vie. le concurrent d'NVIDIA, qui était AMD, avait son système à lui, qui était le FSR, mais le FSR, c'était un petit peu pourri. C'était un petit peu de la merde, quand même. Enfin, pas trop, mais un petit peu de la merde. Et surtout, il n'y avait pas un truc d'intelligence artificielle. Et là, ils vont améliorer ça.
Bah alors. C'est plus sophistiqué que ça, en fait. Ce qui se passe, donc concrètement, oui, alors, tout ce que tu dis est vrai. Globalement, le FSR, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un peu moins bon que le DLSS. Ça ne veut pas dire que c'est nul à yèche non plus, mais c'est un peu moins bon. Et effectivement, la grosse différence technologique entre les deux, c'est que d'un côté, il y a du machine learning, de l'autre, il n'y en a pas. Et là, on a eu une petite phrase de... Comment il s'appelle déjà, ce bonhomme ?
Jean-Pierre Attéi, probablement.
Marc, j'ai pas noté son nom. Tu vois, c'est là que je suis très, très
Marco,
fort.
On va l'appeler Marco.
On va l'appeler Marco. Bon... Cette personne qu'on voit à l'écran là.
Il s'appelle pas Marco, lui s'appelle.
Non, il s'appelle Marc, je sais plus ce que c'est. Bon, Marc, si tu nous regardes. Pardon ? Marc Papermaster. Merci beaucoup, monsieur Chat, qui me.
Oui, Papermaster.
Comment tu fais plus pour oublier ce nom qui est quand même le meilleur nom de l'univers. Donc voilà, Chief Technical Officer chez AMD, qui a sorti au micro du podcast No Priors. Alors attention, citation. 2024, c'est une année importante pour nous parce que nous avons mis tant d'années à développer notre matériel et notre software pour l'IA. Nous venons d'achever l'intégration de l'IA dans notre portfolio de produits entiers, le cloud, les PC, les appareils de jeu. Et d'ailleurs, nos appareils de jeu vont bientôt pouvoir faire de l'upscale par IA.
Ok, donc juste en fait, il pavoise, mais en fait, il se met juste au niveau du DLSS, de ce qu'NVIDIA fait depuis 3 ans.
Déjà, il y a une petite subtilité là-dessus. C'est que tu as remarqué qu'il parle d'appareils de jeu. Il n'a pas parlé de carte graphique.
Ah,
il
n'a
pas parlé de composants PC. Or, entre-temps, il y a eu un petit événement que je pense personne n'a raté sur le chat, c'est-à-dire une avalanche de rumeurs à propos... Alors toi si tu l'as raté,
parce que c'est
un sujet qui ne t'intéresse pas, avalanche de rumeurs autour de la PS5 Pro.
D'accord. Ah oui, ils ont annoncé qu'elle allait être beaucoup plus puissante.
Alors, ils n'ont pas annoncé grand-chose. Par contre, il y a eu des leaks, vraiment, des documents développés en fait, qui ont leaké et dans lesquels on a appris que pour la PS5 Pro, Sony développait son propre algo de mise à l'échelle qui s'appelle le PSSR, pour PlayStation Spectral Super Resolution, qui donc va tourner sur du matos AMD et va faire son upscale avec du machine learning.
D'accord.
Donc, peut-être qu'en fait, c'était de ça que Marc Papermaster parlait.
Donc, ils sont tous en train de développer leur petite technique d'upscaling.
Tout à fait.
Et au final, c'est NVIDIA qui va rester. C'est le DLSS de NVIDIA qui va rester le meilleur.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un camouflet pour le FSR, parce que le FSR, justement, son intérêt, c'est de pouvoir tourner sur tous les GPU de l'univers, ou presque. Et l'endroit, normalement, où ils devaient vraiment connaître la gloire, c'était sur les consoles. Parce que les consoles embarquent du matos AMD, on se disait, ok, là-dedans, il n'y a pas vraiment d'IA, donc le FSR, c'est parfait. Sauf que, voilà, on voit que le FSR, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles ça ne suffit pas, ce n'est pas à la hauteur, surtout quand tu parles de matos console, d'où le but du jeu, ce serait justement de pouvoir partir de résolutions très basses pour avoir une image correcte sur des écrans 4K.
Parce que les consoles, ce n'est pas puissant, c'est nul, c'est tout pourri, et donc il faut utiliser ce genre de béquilles. Oui, je t'en prie, continue.
En même temps, c'est moins cher, hein, donc... Ouais. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que, donc voilà, camouflé pour le FSR, puisque PlayStation préfère développer son propre concurrent qui va utiliser du machine learning, mais qui va utiliser du machine learning sur du matériel AMD. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du FSR ? Aujourd'hui, c'est très difficile à dire, mais on espère quand même qu'il va y avoir très bientôt un nouveau FSR, donc qui marchera mieux, qui saura se battre à armes égales contre le DLSS.
Et on continue à recommander des deux pieds, des deux mains, du NVIDIA pour les gamers.
Oui et non, ça dépend. La 7800 XT, quand même, elle est bien. Après, c'est sûr que chez Nvidia, il y a le DLSS, il y a l'accélération du ray tracing qui marche mieux.
Et quand tu joues à Cyberpunk avec une carte graphique Nvidia et que tu mets tous ces petits trucs, là, le DLSS, le DLLA, tous ces machins dont je comprends absolument rien, ça donne des résultats extraordinaires. Parce que tu te retrouves à tourner à 120 FPS avec tous les détails à fond. Et si tu enlèves le truc, l'image est plus LED et tu tournes à 40 FPS.
C'est pas faux.
Ouais, ça sera Nvidia des deux pieds, des deux mains.
Après, tu sais que le FSR 3 marche très très bien chez AMD. Je sais pas
oui, mais oui. Et puis tu peux le faire tourner sur les cartes Nvidia. Mais c'est moins, c'est, ça reste quand même moins bon au niveau de la qualité d'image et au niveau des performances que le DLSS.
C'est
d'accord.
C'est vrai.
Et moi, je ne veux que le meilleur pour mes jeux vidéo.
Oui, mais parce que toi, tu es un esthète.
J'aime optimiser ma vie.
Tu es un esthète fortuné.
On en a fini avec les news.
Alors attention.
Donc là.
Gros sujet.
Très gros sujet.
Pourquoi gros sujet ? Parce que tous les joueurs qui nous regardent, là sur le chat, là, vous qui nous regardez, vous vous en doutez pas, mais vous allez y passer, je vous le garantis. Vous allez passer à l'OLED dans les peut-être pas les prochaines semaines, mais dans les prochains mois.
Dans les prochaines années, on va dire.
Il y a une avalanche d'annonces de moniteurs OLED. Il y en a à tout le monde en fait.
Ouais.
Je crois qu'il y a
au CES, Asus, cette année, vraiment au CES en janvier à Las Vegas, ça a été de la dinguerie. Tout le monde a annoncé de nouveaux écrans OLED. Il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'il y a une nouvelle vague tout simplement de dalles OLED qui arrive. Et on en a une sur le plateau. Voilà, vous vous demandiez pourquoi il y avait cet écran juste ici, magnifique.
Et on vous met des tortues.
Voilà. Magnifique, avec des tortues dessus.
Avec Toto la tortue et tous ses amis.
Ce moniteur, qu'est-ce que c'est ? C'est le MSI 32.1 URX. C'est un moniteur 32 pouces, 4K, QD OLED, 240 Hz, rien que ça. Et c'est un des fers de lance, du coup, de cette nouvelle génération de moniteurs OLED.
Juste un truc, il faudrait vraiment qu'ils se calment sur les noms des moniteurs.
Oui, alors les noms des moniteurs, c'est toujours une soupe de lettres et de chiffres absolument incroyables.
Parce que le 32XPR QRF 9P4...
Celui-là encore, ça va 32.1 URX, tu vois, j'ai réussi à le dire, même sans regarder ma fiche.
C'est incroyable, alors qu'il l'appellerait Chantal.
Ouais,
tout de suite, on saurait, t'as quoi comme moniteur ? J'ai le Chantal. Ah ouais, t'as le 32 pouces de MSI, tu fais, ok, y a pas de souci. Personne n'y comprend rien.
Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle vague du coup de moniteurs OLED qui a commencé déjà un petit peu l'an dernier hein, avec des premiers moniteurs vraiment pour le coup moniteurs OLED qui sont arrivés sur le marché. C'est que la technologie OLED pour le coup dans les téléviseurs ça existe en gros depuis 2013, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Alors bon, toi et moi, on est tous les deux parfaitement acquis à la cause de l'OLED. Toi, tu es équipé d'un écran OLED depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs. On en avait déjà parlé sur le plateau de l'émission. Ouais. Je te propose quand même de faire un petit résumé. Pourquoi quand tu as un écran OLED, tu vois la vie différemment ?
L'OLED a été la meilleure upgrade informatique que j'ai fait de ces 15 dernières années, sans aucun doute. Parce que ça change complètement vraiment la perception que tu as du PC, la perception que tu as de tes jeux vidéo. L'image est plus nette. Alors évidemment, OLED, hein, on dit OLED, c'est pas du OLED de Clodo en 1080p. Les OLED, tous les OLED qui arrivent, là, ça va être des OLED en 4K.
Pas que, il y aura aussi des modèles 27 pouces 1440p. Mais
quand vous avez du OLED en haute résolution, bah en fait, tout simplement, on découvre un truc en informatique, c'est qu'à l'écran, les noirs peuvent être noirs. Et ça change tout.
Bah pas que en informatique, d'ailleurs, c'est un truc en vidéo de manière générale.
Et ça, vraiment, ça change tout. Les couleurs sont mieux contrastées. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc qui fait que même quand tu lances ton bureau Windows, que tu lances une fenêtre de l'explorateur de fichiers sur l'OLED, eh ben, ça rend mieux.
Tu vois la vie différemment.
Et après, quand tu retournes sur un moniteur normal avec ses dalles du Moyen-Âge, là, le TN, l'IPS, les trucs comme ça,
même le VA.
Tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre des années avec une image aussi terne, aussi dégueulasse ? Tu vois, là, on a ce moniteur qui tourne sans le HDR, par exemple, moi, ça me choque. Tout de suite.
Alors que c'est quand même un écran OLED, donc tu as toujours l'avantage des noirs. Bon, après, on est dans un studio qui est évidemment très éclairé, forcément, ça n'aide pas à voir les noirs. Donc, nous, on n'est pas dans des meilleures conditions. Évidemment, on vous rappelle quoi, le principe d'un écran filmé, vous ne voyez pas à l'image, évidemment, tout l'intérêt de l'OLED. Hein. Il faudrait que vous l'ayez devant les yeux pour ça. Mais du coup, ouais, juste, bah, je voudrais revenir un peu sur pourquoi du coup 2024 c'est une année qui va être passionnante sur l'évolution du marché de l'OLED. Et bah, c'est parce que du coup, il y a les deux grands fabricants de dalles OLED qui lancent tous les deux une nouvelle génération de dalles en ce moment. Parce qu'il faut rappeler que quand tu vas acheter un moniteur OLED, t'as le choix entre 12 milliards de marques différentes.
Mais en fait,
sauf que en fait, alors.
C'est un
trompe-l'œil, on va dire, parce que tous ces moniteurs, ils peuvent avoir en tout et pour tout deux types de dalles qui viennent de deux constructeurs de dalles différents.
Je sais.
Vas-y, dis-nous. Alors, vas-y, dis-nous. Dis-nous.
C'est LG.
Ouais. Alors plus exactement, LG Display.
Ok, non, ça va. Mais bon.
Alors c'est important de le dire parce que c'est une société sœur d'LG Electronics. C'est pas la même boîte que la boîte qui te vend le moniteur directement.
Ah, je savais pas ça.
En fait, ouais.
Ok, d'accord. LG et l'autre, purée, ça je sais pas, mais je vais dire. Attends, Panasonic.
Non.
Ah, Sony.
Non plus.
Samsung.
Alors pareil, Samsung Display. Parce que c'est pareil. Donc tout ça, en fait, Samsung Electronics et Samsung Display, tout comme LG Electronics et LG Display, ce sont deux boîtes qui font partie à chaque fois du même conglomérat. Ce sont vraiment des sociétés sœurs, mais elles sont clientes d'elles-mêmes, en fait.
Ouais, ouais.
En gros, LG Display vend ses dalles à LG Electronics, qui va après les intégrer dans des moniteurs qu'il va pouvoir vendre aux consommateurs.
Et LG, Display, et, LG et Samsung vendent aussi
et Samsung, dalles, c'est exactement le, c'est exactement le même truc. Mais du coup, bah, par exemple, dans l'équipe LG Display, on trouve donc LG, on l'a dit, mais aussi Asus, Corsair, Gigabyte, qui vendent des écrans LG Display, et dans la team Samsung, Samsung, évidemment, Samsung Electronics, Asus, qui bouffe à tous les râteliers, voilà. MSI, donc, dont ce modèle-là, et Alienware, donc Dell.
Et alors, il faut choisir quoi entre les dalles LG et les dalles Samsung?
Alors déjà, il faut expliquer la différence entre les deux.
Il y a deux types de dalles, donc.
Il y a deux types de dalles, voilà. Parce qu'en gros, donc, les dalles LG, c'est ce qu'on appelle des dalles... Alors là, tu vas pouvoir nous montrer, Monsieur Chat, une petite image fixe qui montre la différence entre les dalles OLED et les dalles QD OLED.
Parce qu'attention, il ne faut pas croire, hein, c'est technique. Et si, non, mais je plains les gens qui vont devoir s'acheter un moniteur OLED dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, parce que pour s'y retrouver dans tout ce merdier entre les différentes dalles, les différents finishes, les différents fabricants, est-ce que c'est du 120 Hz, du 300 Hz, du machin?
C'est un bazar sans nom.
Mais j'ai vu des tableaux Excel avec tous les modèles résumés, avec toutes les caractéristiques, et en fait, tu t'y perds complètement.
Ah, c'est très difficile, mais tu vois, c'est à ça qu'on sert. Nous, on est là pour expliquer, pour vous dire, je vous regarde droit dans les yeux, pour vous dire voilà quoi il faut faire attention quand on achète un OLED.
Et à la fin de ce sujet, on dira exactement quel modèle il faut choisir pour ne pas se tromper. Moi, j'ai déjà mon idée sur la question.
Vas-y, je te laisserai prendre tes responsabilités.
Ouais.
Mais alors, du coup, différence entre le WOLED et le QD OLED. Alors, le WOLED, c'est justement la techno qu'on voit depuis plus de 10 ans chez LG, notamment.
W pour white,
exactement. Parce qu'en fait, sous l'écran, on a des LED, enfin des diodes organiques qui émettent de la lumière blanche. Par-dessus, des filtres rouge, vert, bleu. Alors, pour chaque pixel, on n'a pas 3 sous-pixels comme d'habitude, un rouge, un vert, un bleu, mais 4. Là, vous voyez là, sur le graphique qui est à l'écran.
C'est très clair.
Voilà, donc on a du rouge, du vert, du bleu et du blanc.
Ouais.
Et à partir de ces 4 sous-pixels, on va créer toutes les couleurs possibles. Le QD OLED, c'est différent. Pour le coup, on utilise des diodes bleus, par-dessus lesquels sont disposées des boîtes quantiques. Alors, les boîtes quantiques, c'est un truc extrême. C'est de la physique de très, très haut niveau.
Donc, c'est le QD OLED.
QD, voilà, quantum dot, des points quantiques. Exactement. Alors, la traduction française, c'est plutôt boîte quantique, mais... Et les boîtes quantiques, oui, alors j'ai noté un petit peu des mots pour faire genre, c'est des nanostructures cristallines de semi-conducteurs qui se comportent comme des puits de potentiel.
Ouais, je savais, moi.
Voilà, voilà. Même moi, j'ai rien compris à cette phrase, mais en gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des nanostructures qu'on va pouvoir exciter, en fait, avec de la lumière bleue, qui vont elles-mêmes émettre de la lumière de longueur d'onde différente derrière. Donc, en gros, à partir d'une lumière bleue, on va pouvoir créer de la lumière rouge ou la lumière verte, et comme ça créer tous les sous-pixels RGB.
Créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Créer toutes les couleurs de l'univers, oserais-je même dire. Non, pas totalement. Donc, entre les deux technologies, qu'est-ce qui est le mieux? Toi, t'as ton avis, tu me disais.
Ouais. WOLED.
Et pourquoi?
Eh ben, parce que c'est celle que j'ai... C'est celle
très
que j'ai achetée, donc c'est celle-là.
Très bonne raison.
Donc c'est celle-là qui est la meilleure, et toutes les autres c'est du pipi caca. Ouais, c'est clair. Non, bah pourquoi est-ce que c'est la meilleure? Eh bah, écoute, parce que j'en ai acheté un et j'en suis extrêmement content. On a dit qu'il y avait, alors il y a un grand débat entre le OLED. Moi je dis OLED. Hein.
Tout le monde dit le OLED.
Alors par exemple, il y a un point de contention très important, c'est la clarté du texte.
Entre autres.
Il y en a plein qui sont obsédés là-dessus, donc ils prennent des appareils photo, ils photographient des textes en zoom x500 et ils disent eh ben moi je trouve que le QD OLED c'est plus propre, moi je trouve que le WOLED c'est plus propre, moi j'ai un WOLED, les textes sous Windows, je suis sur un traitement de texte toute la journée, les textes sous Windows sont impeccables.
Surtout parce que t'es sur un écran 4K. Du coup, oui. La haute densité de pixels.
Oui, mais donc, grande taille, donc quand même.
Oui, mais après, t'es relativement loin de l'écran, donc la densité de...
Ah non, l'écran, il est là, moi. j'ai 4K, j'en profite, hein, je vais voir tous les pixels. Hein. Donc pour moi, le WOLED...
Du coup, justement, pour parler de cette histoire de clarté des textes, j'ai encore une image à te faire montrer, mon cher Monsieur Chat. Voilà, là où on voit, en fait, la structure des sous-pixels d'un écran QD OLED. Alors, si vous êtes sur un écran, si vous nous regardez sur un smartphone, désolé, vous ne devez pas voir grand-chose. Mais ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que, en gros, les sous-pixels sont disposés en triangle. Et en fait, ça, c'est très différent de comment les sous-pixels sont disposés sur un écran LCD. Or, il s'avère que dans à peu près tous les systèmes d'exploitation de l'univers, y compris Windows, y compris Mac, il y a un système d'anti-aliasing, en fait, au niveau sous-pixel. mais qui n'est pas du tout adapté du coup à cette disposition-là. Alors, il est toujours possible de désactiver l'anti-aliasing. Sous Windows, c'est la fonction Clear Text. On peut tout à fait la désactiver. On aura généralement des meilleurs textes du coup sur des écrans OLED.
Ah bon ?
Ceci étant dit...
Attends. En désactivant Clear Text sous Windows, on a une meilleure lisibilité des textes.
Ouais, sur des écrans OLED.
Ah, je savais pas, moi je l'activais comme un con.
Ah bah, tu devrais le désactiver, tu verras, écoute, ça fera une différence. Peut-être pas majeur, mais... Mais du coup, voilà, donc juste pour dire, pour continuer, du coup, donc là, vous, en désactivant le truc, du coup, vous manquez d'anti-crénelage au niveau sous pixel, ouais. Donc vous allez quand même avoir un petit peu de ce qu'on appelle en anglais du fringing, donc en gros, vous allez voir un petit peu des couleurs débordées,
ça
bavouille. Mais là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que sur la nouvelle génération d'écran QD OLED, c'est ce qui est montré par cette image, les pixels verts, notamment, sont plus larges, et ça fait qu'en fait, il y a moins d'espace entre les sous-pixels, il y a moins d'espace noir sur l'écran, c'est ce qu'on appelle le pixel fill, et le fait que le pixel fill du coup soit plus élevé sur les dalles de nouvelle génération fait que le phénomène de fringing est beaucoup moins présent maintenant, et ça pour le coup c'est un des avantages du QD OLED qui n'est pas totalement supprimé mais qui a quand même été bien réduit sur ces dalles de nouvelle génération.
Donc c'est clair, plus de pixel filling, moins de fringing.
Exactement.
Les mots techniques, non mais c'est pour moi c'est limpide.
Apparemment le sens de la formule, je t'admire pour ça.
Honnêtement, moi je suis les débats hein, entre QD OLED, WOLED, parce que évidemment moi je suis team WOLED. C'est quand même un peu de la branlette, parce que quoi qu'il arrive, si vous achetez un OLED, ça sera tellement plus beau que sur votre dalle TN du Moyen Âge. Que voilà, vous ferez pas attention. Hein.
Ouais, après c'est pas parce que de toute façon tu seras content de ton achat.
Voilà,
en fait.
C'est ça, c'est pour couper le cheveu en quatre. Parce que non, tu vois, voilà, le problème c'est que
après on est CPC hardware, on veut quand même aller au bout des choses.
Certes, bien sûr, mais ce que je voudrais surtout pas qu'on dise aux gens, parce que je trouve que c'est le problème quand on veut acheter un OLED, c'est que tu vas sur les forums, tu regardes les témoignages des gens et t'as l'impression qu'en fait l'OLED c'est un nid en merde, parce que t'as le burn-in.
On en parlera du burn-in.
Bah, on peut parler du burn-in. Qu'est-ce que le burn-in?
Bah, le burn-in, c'est simplement le fait que les pixels...
le mythe du burn-in.
Les sous-pixels, enfin les diodes organiques qu'il y a dans des écrans OLED, eh bah, si tu les fais briller trop longtemps à trop haute luminosité, elles finissent par s'user, par cramer.
Et par marquer l'écran.
Et du coup, à la fin, elles perdent en luminosité et ça fait du marquage, ce qu'on appelle du marquage sur l'écran.
Donc typiquement, si vous avez votre barre des tâches Windows blanche... Mais qui a une barre d'étage Windows blanche? Je me le demande. Mais bon, si vous avez une barre d'étage Windows blanche que vous laissez votre PC allumé 8 heures par jour, eh ben, au bout de 6 mois, 1 an, même quand vous aurez une image uniforme sur l'écran, vous allez voir une espèce d'image fantôme de la barre d'étage.
Alors après, ça, c'est ce qui se dit. Et en pratique, voilà, moi, pour le coup, j'utilise un écran OLED, alors WOLED, du coup, comme moniteur depuis, ça va faire 3 ans et demi maintenant.
Est-ce que tu caches ta barre d'étage?
Je ne cache même pas ma barre d'étage. Je me mets en mode sombre.
D'accord, mais t'avises dangereusement. Parce que moi, tu vois, je suis un peu parano et je la cache quand même.
Et j'ai. Alors aussi, je la mets globalement quand je suis en bureautique à une luminosité très basse.
Ouais.
Ça, c'est un truc à faire aussi. Ouais, vraiment.
50%.
Même pas. Moi, je crois que je me mets à 25 ou 30%.
Ouais, moi, j'aime voir quand même ce qui se passe à l'écran. Donc, je me mets à 50%. Mais après,
écoute, à 30%, moi, je vois déjà très, très bien. Enfin, tout ça pour dire que voilà, ça fait quand même 3 ans et demi que je l'ai et j'ai même pas une trace.
Ouais, ouais.
Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que le burn-in, il y a toujours moyen, relativement vite, on va dire, de le mettre en avant en affichant vraiment des images monochrome sur tout l'écran.
Typiquement, c'est un fond gris. Il y a même des sites internet qui permettent d'avoir plein d'images comme ça.
Entre un burn-in détectable dans des conditions extrêmes comme ça et un burn-in qui va vraiment vous déranger à l'usage au quotidien, il y a une marge, il y a une très grande marge. Donc ça, c'est important de le dire. Ceci étant dit, pour revenir à la différence entre QD OLED et WOLED, justement, un des désavantages du QD OLED, c'est qu'il est, a priori, plus sensible au burn-in, tout simplement parce que c'est une technologie qui est plus récente.
Ouais.
Donc qui est moins mature que le WOLED et du coup il y a moins de techniques qui ont été trouvées pour réduire le burn-in. Là encore, il ne faut pas non plus tirer trop de conclusions là-dessus. Une des spécificités justement de l'écran MSI que j'ai ici, que j'ai pu tester, c'est qu'il a de très 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 nombreuses fonctionnalités anti-burn-in, une détection de barre des tâches justement.
Ouais.
Quand il voit que tu as laissé ta barre des tâches à l'écran, il va automatiquement la baisser, je crois, de 30% de luminosité.
Ouais.
Des détections de logo aussi, dès qu'il voit qu'il y a un logo qui est un peu fixe à l'écran, paf, ça baisse la luminosité automatiquement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un avantage que ce moniteur a.
Il y a aussi un petit truc auquel il faut être préparé quand on achète un moniteur OLED, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le pixel shifting. C'est-à-dire que l'écran OLED, pour éviter que, par exemple, si par exemple vous avez un icône Windows qui reste toujours au même endroit, bon, bah, c'est, ça peut être problématique. Donc en fait, il va faire glisser les pixels de quelques pixels toutes les heures ou toutes les deux heures. Ouais. Mais du coup, des fois, si vous avez un icône de Windows en bord d'écran, eh ben, l'icône de Windows va être mangée
par le bord de l'écran. Il va être un petit peu bouffé par le bordure de l'écran.
Et ça, non, honnêtement, ça surprend. Parce que quand tu regardes ton bureau Windows et que tu vois que tu as un icône qui est bouffé de 5 pixels, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tu vas sur les forums, ils te disent, non, c'est bon, c'est normal.
C'est normal. C'est le pixel shifting, justement, c'est bien. C'est dans le cas au contraire qu'il faut s'inquiéter, parce que c'est quand même une bonne technique, le pixel shifting, mais qui est utilisé pour le coup sur absolument toutes les technologies OLED. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet ?
QD OLED, WOLED, je crois qu'on a fait le tour.
Alors, on n'a pas totalement fait le tour. Le fait que le QD OLED, ait que des sous-pixels de couleur, du coup, pas de sous-pixels blancs, ça lui donne aussi un avantage en HDR, c'est que non seulement il peut atteindre des luminosités très élevées, mais il peut les atteindre même à 100% de saturation. Là où un écran WOLED, pour atteindre sa luminosité maximale, il va utiliser le pixel blanc qui va affadir automatiquement les couleurs. Donc en gros, plus l'image est lumineuse, c'est ce qu'on appelle le color volume. C'est vraiment l'idée qu'à haute luminance, tu peux toujours couvrir tout le spectre de couleurs de l'écran. Sur un écran WOLED, le color volume est réduit parce qu'à très haute luminance, il faut allumer le pixel blanc et du coup, tu vas affadir les couleurs.
Tu vas les délaver.
Exactement. Donc ça, c'est quand même un avantage assez important du QD OLED parce que voilà, il faut bien dire que le QD OLED a aussi des avantages par rapport au WOLED.
Ok, qu'est-ce qui nous manquait il nous manque plein de trucs à évoquer encore là-dessus. non mais si, imagine, t'es quelqu'un sur le chat, tu te dis « Ah non, ça commence à m'intéresser ». Il faut aussi les prévenir qu'il y a pour moi un énorme souci avec la nouvelle génération de moniteurs OLED qui arrive. Enfin, deux soucis. D'abord, le prix.
Oui.
C'est du 1500 balles.
Il y en a du un peu moins cher que ça, mais globalement, le prix plancher, on va dire, alors en MSRP, hein, en prix recommandé, on va dire, ça va être du 1200 balles, quelque chose comme ça.
1200 après, balles pour des diagonales qui ne sont pas fofolles, parce que 32 pouces, c'est quand même pas non plus un écran IMAX.
Ouais, après, il y a des gens qui vont te dire que justement, tu vois, enfin, bon, nous, on sait, hein, toi, tu as un écran 42 pouces, moi, j'ai un écran 48, mais tu as beaucoup de gens.
Un flex. Non, je suis supérieur. Ouais, vas-y, continue.
Non, c'est juste que moi, quand j'ai pris le mien, ça n'existait pas encore, les 42. Ouais, moi, j'aurais pris un 42, vrai, honnêtement. Mais je suis un 48 et j'en suis ravi. Bref, il y a quand même beaucoup de gens pour qui, simplement, c'est mettre plus que 32 pouces sur leur bureau, à un moment, ça prend trop de place. Bon. Ouais. Admettons.
Okay.
Qui est-on pour juger ?
Mais le problème...
Bah, si toi, t'es juge, donc tu peux
mais, juger. Non, mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on vende des écrans 32 pouces, mais il ne faut pas qu'il y ait des écrans 42 pouces qui soient disponibles moins chers. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que le prix de la diagonale soit quand même... Il faut que le prix soit proportionnel à la diagonale.
Ouais, alors ça, de toute façon, c'est un truc que tu remarques partout un peu sur le marché en fait, des écrans. C'est-à-dire qu'au-dessus de 32 pouces et en dessous de 55... Même tu as dans le monde des téléviseurs, en dessous de 55 pouces, il n'y a plus de différenciation des prix, parce qu'on considère qu'à ce stade-là, en fait, les gens qui achètent plus bas, ce n'est pas parce qu'ils veulent acheter moins cher, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la place de prendre plus grand.
D'accord.
Donc tu vois, pour typiquement, généralement, ton écran, ton téléviseur que tu as acheté, ton 42 pouces que tu as acheté pour t'en servir comme moniteur, tu aurais pu acheter un 55 pouces pour le même prix.
Ok.
Par contre, si tu montes à 65, alors là, tu commences à payer beaucoup plus cher, et 77, 88, j'en parle même pas. Mais il y a vraiment cette zone intermédiaire entre 32 et 55, en gros, où tout est au même prix. À ce stade, la taille n'est plus une différence, un point différenciant.
Et il y a un autre truc qu'il faut signaler aussi, parce qu'il y a plein de gens qui l'achètent sans s'en rendre compte, c'est que dans ces trucs, alors peut-être dans celui-là, je ne sais pas, mais dans beaucoup de moniteurs OLED, particulièrement la nouvelle génération qui va arriver sur le marché et qui monte à 240 Hz, voire 360 Hz, je crois, voire 480 Hz, je crois, Asus.
Ouais. Alors effectivement, ça c'est un truc qui va arriver sur les dalles de nouvelle génération en WOLED, qui ne sont pas encore sur le marché, qui vont arriver normalement en mai, de ce qu'on a dit il n'y a pas trop longtemps. Sur les dalles 30, elles auront aussi donc, en format des dalles 32 pouces 4K, sur lequel il y aura un mode alternatif. Alors il faudra baisser la définition en 1080p du coup.
En 360 ou 480?
Non, en 4K, tu pourras monter à 240 Hz. Par contre, en 1080p, tu pourras monter à 480 Hz. Tu pourras doubler le framerate.
Donc ça, c'est vraiment le genre de truc qui est fait pour les joueurs de Valorant, les joueurs d'Apex Legends, parce que déjà, faire tourner un jeu à 480
FPS... Là, on est vraiment sûr de l'usage pro-gaming, avec un rat à la place du 1.
Ok, c'est vraiment pour les
groupes PG. Et un 1 à la place du i.
Et honnêtement, 120 Hz. Alors, si les gens sur le chat vont peut-être pas être d'accord, 120 Hz, ça suffit.
Alors, 120 Hz, ça suffit.
120, 240...
Et 240, je crache pas dessus, quand même. Au-dessus de 240, je commence à être d'accord pour dire que, ouais, là, quand même, vraiment.
Mais les 240. C'est fluide, hein.
Ah, je te dis pas oui, bien sûr
quand
que c'est
tu, quand tu bouges ton explorateur de fichiers sous Windows.
Déjà 60, c'est fluide. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents. Non,
60, c'est pas fluide. 120, c'est très bien. Non, je voulais revenir sur un des défauts potentiels de ce genre, de la nouvelle génération de moniteurs qui arrive, c'est qu'il y en a qui peuvent avoir des ventilateurs.
Oui.
Alors moi, acheter un écran avec un ventilateur.
Parce qu'une dalle OLED.
Je m'inscris en portable.
Une dalle OLED, ça chauffe. Ça peut chauffer en tout cas. Parce qu'il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, le principe de l'OLED en fait c'est quoi, c'est que tous les pixels s'allument indépendamment les uns des autres, mais du coup quand on affiche une image toute blanche par exemple,
tous les pixels s'allument.
Tous les pixels s'allument d'un coup
et là l'écran prend feu.
L'OLED c'est une techno qui n'est pas hyper efficace d'un point de vue énergétique, donc quand tout l'écran s'allume ça chauffe. Il faut refroidir ça. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont développées pour ça. Il y en a les plus malins. Bah, tout ce qu'ils font, c'est juste qu'ils mettent un gros radiateur derrière, un gros heatsink qui va juste absorber la chaleur passivement. Et puis, il y en a, ils mettent un ventilateur.
Un ventilateur qui fait du bruit. Un ventilateur qui, au bout de 6 mois, va sortir de son axe, va faire...
C'est ça. Alors,
et votre écran à 1500 boules, vous voulez foutre par la fenêtre.
T'as tout à fait raison de le souligner, parce qu'en plus, alors, pour les tests, c'est très compliqué, parce que généralement, le machin, en sortie de boîte, le ventilo, c'est pas non plus une 4090, l'écran. Hein.
Donc, c'est des petits
le ventilateur, il tourne, c'est même pas que ce soit un petit ventilateur, pour le coup, ce serait mieux qu'il soit plus gros, mais il tourne pas vite, et il est quasiment inaudible. Mais après, il suffit effectivement que... Le truc de ventilation s'encrasse un petit peu, que le machin se désaxe un tout petit peu, et ça a vite fait de faire juste ce tout petit bruit à peine perceptible, là,
Il en a un, ce MSI, là ?
Celui-là, il n'en a pas.
Bon, okay.
Dans les nouvelles générations de QD OLED, le seul qui en a, c'est l'Alienware. Enfin, les seuls qui en ont, c'est les Alienware.
Et je regardais derrière, il n'est pas trop épais, donc il n'y a pas un heatsink qui est monstrueux, il n'y a pas un heatsink qui fait 30 cm d'épaisseur derrière.
Non, mais après, des fois, c'est juste une question d'avoir un heatsink bien foutu, en fait, avec une plaque d'échange la plus large possible. C'est pas juste une question de volume.
Dernier paramètre important pour ceux qui voudraient acheter un OLED dans les prochains mois, le grand débat du mat ou glossy.
Ouais.
Vas-y, explique les termes. Parce que mat ou glossy, c'est pas un homme politique italien. Ça pourrait.
Non, c'est tout simplement le revêtement de la dalle, en fait. Est-ce qu'il est brillant ou est-ce qu'il est mat? Sur PC, on a l'habitude, généralement, d'aimer les écrans mat parce que ça réfléchit moins,
ça réfléchit moins
la lumière, donc il y a moins de reflets pénibles sur l'écran. Le problème, c'est que les écrans mat, ça diffracte aussi la lumière. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que sur les écrans LCD, typiquement, on s'en fichait complètement parce que de toute façon, les noirs des écrans LCD, ils sont gris clair. Donc, avoir un petit peu de lumière résiduelle en plus par-dessus, ça ne change rien. Sur un OLED, tu prends tes noirs absolument parfaits. Ouais. Tu mets un petit peu de lumière résiduelle liée à la diffraction du revêtement par-dessus. Et ta couche de noir parfait, elle est un petit peu...
Mais il y a un truc qui est cool avec les écrans glossy, donc ceux qui réfléchissent un peu, mais qui rendent le mieux
coup,
les couleurs.
Du coup, ne diffracte absolument pas.
Tu es dans un jeu vidéo où c'est clair, et puis tout d'un coup, tu as une scène sombre, et là... Tu te vois
dedans.
Dans l'écran. Et là, alors moi, je suis content parce que je suis toujours heureux de me voir dans un miroir.
Oui, tu es très narcissique, donc c'est vrai.
Exactement. Au début, ça me surprenait. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est cool parce que c'est un moment que tu peux prendre pour réfléchir à ce que tu es en train de faire. Tu vois, t'en es à ton 7e run de Balatro de la nuit. L'écran devient noir. Tu te regardes dans le truc, tu te dis... Est-ce qu'il ne serait pas temps de reprendre le contrôle de mon existence? Et ça, j'ai trouvé que c'était pratique.
Moi, ça m'a donné le goût du fait de jouer dans une pièce complètement noire.
Oui,
moi, je suis un vampire, donc je joue dans le noir.
Il faut te dire un truc aussi, un argument contre les moniteurs OLED, même si c'est le futur des moniteurs, c'est que ce n'est quand même pas des moniteurs très lumineux.
Et donc, à cause du marquage. Il y a deux raisons.
Même quand tu le mets à 100%, moi je viens à mon LG, j'en suis content, mais même quand je le mets à 100%, j'ai pas l'impression d'avoir un flash en pleine gueule.
Ouais, alors en fait, il y a deux raisons en fait, pour lesquelles quand tu le mets à 100%, effectivement, la luminosité reste relativement faible. La première, c'est tout simplement pour éviter le marquage. Et la deuxième, alors ça c'est justement un point sur lequel il faut passer un peu de temps aussi, qui est une réglementation européenne en fait, qui impose aux écrans une certaine consommation par mètre carré et par mètre carré de surface d'écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OLED, c'est pas très efficace énergétiquement. Donc, tant que tu n'illumines que quelques pixels, proportionnellement à la taille de l'écran, tu peux les pousser à fond les ballons, ça pose aucun problème. Par contre, dès que tu illumines tout l'écran, alors là, c'est compliqué.
Et il faut dire que les classes énergétiques des écrans LED, elles sont pas bonnes.
Mais j'ai regardé, généralement
c'est
affreuses.
W, Z, double Z, triple Z. Enfin, le truc, tu l'allumes, tu prends la moitié d'une centrale à charbon. Ouais, il y a
non,
ça aussi.
C'est,
faut,
bon, c'est très exagéré. En vrai, si t'as un PC de jeu à côté, je veux dire, l'écran, c'est pas ça qui. Puis de toute façon, voilà, moi, je renvoie toujours vers un super dossier que m'avait écrit il y a un an un dénommé Von Yaourt, qui me parlait du coût en carbone des équipements électroniques. Et notamment des écrans, et les écrans, ça coûte extrêmement cher à fabriquer en termes d'impact carbone, et leur usage est vraiment négligeable, absolument négligeable là-dedans. Donc voilà, utilisez pas trop, enfin si, utilisez éventuellement l'argument, si le but du jeu c'est juste de réduire votre facture EDF. Par contre, pour l'argument écologique, il vous dit juste de garder votre écran que vous avez aujourd'hui, même si c'est un LCD, à partir du moment où vous en êtes content, voilà. Ouais. Renouvelez pas trop souvent. C'est le meilleur moyen de sauver la planète.
Mais quand même, prenez un OLED, parce que c'est bien.
Bah attends, parce qu'on va
dommage
venir.
Pour les bébés phoques.
Attends, parce qu'on va venir. On va essayer d'aller un petit peu, parce que c'est un petit moment qu'on est sur le sujet.
Vas-y.
Un petit truc que je voulais qu'on regarde un petit peu vers l'avenir aussi.
Ah bah, mais...
Parce que donc, ouais, on parle de...
L'avenir. Allons-y.
C'est là-bas, l'avenir. Donc, on parle d'une nouvelle génération d'écrans OLED. C'est quand même une technologie qui arrive depuis seulement très récemment, on l'a dit, dans le monde des moniteurs PC. Et comme toutes les technologies qui viennent d'arriver, on sait déjà dans quel sens ça va évoluer. Il y a déjà plein d'évolutions qui sont en cours. Notamment, par exemple, côté LG, côté écran WOLED, il y a une techno que LG est déjà en train de déployer sur ses téléviseurs haut de gamme et qui, petit à petit, va arriver sur les écrans moins haut de gamme, dont les moniteurs. C'est la technologie MLA, pour Micro Lens Array, je crois que tu connais. Tu peux nous expliquer le principe du MLA?
Alors, pas du tout, mais ce que je sais, ce qui m'a impressionné, c'est que sur un pixel... Alors, si, c'est des petites lentilles. Voilà,
c'est des petites lentilles. C'est des petites lentilles. Tu, alors, tu peux nous mettre le... Voilà, on le voit à l'écran. Voilà,
les lentilles. Et je sais, figurez-vous... Non, mais accrochez-vous au fauteuil, quand même. Ces petites lentilles-là, vous vous dites, oui, ça a l'air petit. Sur un pixel, tu sais combien ils en mettent de petites lentilles comme ça? J'ai lu ça. 5 millions.
C'est pour ça qu'on parle de micro-lentilles.
Ah, ça, c'est micro-micro. 5 millions de petites lentilles sur un pixel. Alors, les lentilles, qu'est-ce que ça fait? Ça focalise la lumière.
Exactement.
Ça concentre la lumière.
Bah, en fait, ça permet simplement de faire qu'il y a moins de lumière qui se perd, on va dire, sur les côtés.
Et donc, l'écran paraît plus lumineux. Éventuellement, il peut moins consommer. Mais bon.
Bon, on s'en sert surtout pour le rendre plus lumineux. Ouais.
Oui, voilà. Pour que ça t'arrache bien la réalité. Mais la technologie, ils avaient annoncé plein de trucs au CES de l'année dernière. Et ça donnait quoi maintenant? Est-ce qu'on l'a sur ces écrans? On l'a pas encore.
Non, sur ces écrans, justement, on l'a pas. Là, sur cette année encore, on l'a, je te dis, sur les téléviseurs haut de gamme de LG. Mais petit à petit, on sait que voilà, ça va descendre en gamme. On va retrouver cette techno de plus en plus sur des écrans de plus en plus petits. Et un jour ou l'autre, ça va arriver sur les moniteurs. Et bon. En gros, ce qu'il faut en conclure de tout ça, c'est que voilà, les évolutions arrivent. Donc, même si l'OLED, c'est vachement bien, si là, tout de suite, maintenant, vous n'en avez pas besoin, ne vous précipitez pas.
Ouais,
parce qu'avec ça, comme avec tout le reste, plus vous attendez,
oui, mais
meilleurs seront l'écran que vous
chopez. Quand tu vois tourner un OLED, tu te dis, j'en ai besoin.
Ah oui, mais voilà, mais moi, tu vois, je suis là pour aussi rendre les gens raisonnables. Je suis là pour donner envie et pour juste derrière leur dire, mais non, enfin, soyez raisonnables, n'achetez pas.
Il y avait quelqu'un sur le chat qui nous dit, bon alors, et c'est quel moniteur qu'on achète maintenant? C'est quel écran qu'on achète maintenant?
Alors, moi, j'avais pas envie de mouiller parce que je suis un pleutre.
Mais puis c'est trop le bordel, il y en a trop qui sortent là. Il y en a trop. Il y a avec trop de caractéristiques différentes. On ne peut pas dire celui-là et.
Non, en vrai, alors là, on a le MSI qui, sur le papier, est très très bien. Le MSI, il a un problème en France. Qui est qu'il est vendu au même prix que les autres, c'est-à-dire 1400 balles.
Ouais. C'est quand même cher.
Ailleurs dans le monde, alors il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, aux États-Unis par exemple, ce même modèle, il est vendu à $950, alors que les autres modèles sont à 1200, 1300. Donc il a l'avantage du prix. En France, malheureusement, il ne l'a pas. En France, il y a un modèle effectivement qui a l'avantage du prix, c'est l'Alienware.
Ouais.
Donc le Dell. Alors le Dell, par contre, il a un autre désavantage, c'est qu'il est courbé. Enfin, il y en a pour qui ça va être des avantages, c'est un avantage pour qui ça va être un désavantage, mais il est incurvé. Voilà. Mais globalement, c'est quand même l'Alienware qui aujourd'hui est le moins cher. Et si vous voulez vous prendre un QD OLED aujourd'hui, c'est celui-là qu'il faut prendre. Toi, c'est quoi ton avis, du coup?
Eh ben moi, mon avis, c'est qu'il faut acheter des LG C3 maintenant. C'est quoi les LG C3?
C'est les 3 ou les 4 qui vont sortir?
Je ne sais même plus. Les 4 vont sortir là.
C'est ça, ils vont sortir.
Mais les C3,
c'est combien? Les C3 du coup sont encore. Oui,
un C3 là. 42 pouces, c'est combien? 1000 euros?
Soit dans les 1000 balles ou un truc.
Voilà,
comme ça.
1000 euros. Alors c'est un téléviseur. Donc évidemment, vous allez vous dire, ah ben non, je vais pas de téléviseur à la place d'un moniteur informatique. Mais quand vous utilisez les téléviseurs, en fait, il y a des API qui permettent de contrôler l'écran avec le PC. Moi, par exemple, je contrôle mon écran avec mon Steam Deck. C'est tellement bien. Je fais ça avec les boutons et tout ça. Oh,
ton Steam Deck.
Mon Stream Deck, pardon, oui, pas mon Stream Deck. Mon Stream Deck Delgato. Ça, c'est vachement. Ça coûte 1000 euros. 42 pouces, donc c'est plus gros que ça, parce que ça, franchement, 32 pouces, je vais pas dire que c'est petit, mais honnêtement, ça fait un peu timbre-poste. Et surtout, 1500 euros, mais 1300 euros pour un 32 pouces, alors que tu peux avoir un 42 pouces pour 1000 euros. Je comprends même pas pourquoi il y a débat. Je comprends même pas pourquoi les fabricants mettent des 32 pouces à ce prix-là, alors que tu peux acheter un téléviseur, l'utiliser moniteur sur ton PC, et ça marche.
Alors si, pour moi, en vrai, il y a quand même un avantage. C'était un truc que j'entendais l'an dernier. Aujourd'hui, pour moi, les moniteurs OLED de cette année, ils ont un avantage concret qui est le 240 Hz.
Ouais, si t'es un PGM sur Valorant, mais honnêtement...
Même moi, qui ne suis très loin d'être un PGM, je peux dire que les 240 Hz, ils font plaisir quand même.
Eh bien, écoute, fais-toi plaisir avec tes 240 Hz à jouer sur ton timbre poste
avant,
de 240
Hz. Avant de passer au sujet suivant, un autre petit point quand même qu'il faut noter. Donc là, on est évidemment fixé sur ce format 32 pouces 4K, parce que c'est celui qu'on a sur le plateau que je suis en train de tester en ce moment.
Et qui est la majorité des modèles.
Qui est probablement celui qui va se vendre le plus en volume de très loin.
Et ça deviendra le nouveau standard dans les prochaines années.
Il y a d'autres formats qui sont lancés, du coup, et pareil, qui vont se retrouver chez à peu près toutes les marques. Aussi bien en QD OLED qu'en WOLED, on a du 27 pouces 1440p,
trop petit.
360 Hz.
Trop petit.
Il y en a que ça peut intéresser, voilà, si vous aimez le 27 pouces. Voilà. Il y a aussi du 34 pouces en 21/9 en ultra-wide, et il y a du 45 pouces en ultra-wide aussi. Et en QD OLED, on a même, alors là, ça tu vas adorer, du 49 pouces en giga ultra-wide, c'est-à-dire en 32/9, donc en gros deux écrans 16/9 côte à côte.
Complètement inutile, parce que de toute façon, quand vous êtes en jeu vidéo, vous regardez dans un petit cône comme ça devant vous.
Le but du jeu, c'est de remplir le champ de vision, justement.
Ouais, mais non. Tu veux remplir ton champ de vision, tu t'achètes un casque VR.
Bon, écoutez, voilà, donc la dynamique entre nous deux, c'est ici les hot takes. Moi, j'essaye de pas trop juger, voilà, de dire vous êtes libre de choisir vos usages qui vous conviennent.
Mais parce que je suis tellement sûr de mon coup.
C'est le début de ça.
Un LG C2, un LG C3, ça vous rendra très heureux plutôt que ces trucs super, super chers.
Ça fait même pas 50 minutes qu'on a lancé l'émission, on est déjà en train de se.
Est-ce qu'on a tout dit sur les OLED?
Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour.
Il y a quelqu'un qui disait, oui, 240 Hz, quelle carte graphique il faut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si vous achetez un 240 Hz, c'est parce que vous êtes un PGM, vous voulez jouer à Valorant, voulez jouer à Apex Legends. Voilà.
Alors oui, alors après, il y a un autre truc aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. En particulier quand on parle justement d'écran 4K comme ça. La 4K, ça veut dire aussi densité de pixels énorme. Et densité de pixels énorme, ça veut dire que faire votre rendu 3D à la définition native de l'écran, si vous pouvez, évidemment, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Vraiment. Donc, il y a quand même l'intérêt aussi.
Parce qu'il y a le DLSS, dont on parlait tout à l'heure, non?
Entre autres, mais des fois, même des jeux sur les jeux qui n'ont pas le DLSS, honnêtement, tu fais un rendu en 1440p, tu l'affiches là-dessus. Bon, évidemment que c'est moins net que si tu as un rendu en 4K natif. N'empêche que ça marche. Ça marche sans le moindre problème.
T'achètes un écran 4K, tu vas pas te faire tourner en 1080p comme un clodo.
Bah après, t'as toujours l'intérêt d'avoir de la 4K pour la bureautique ou pour tes jeux moins gourmands. Voilà, tes petits jeux indés en 2D, tu les fais tourner en 4K.
Ah, non, mais c'est vrai que Balatro, oui, en 1080, il tourne bien. Même
non,
un Rimworld,
le jeu dont je me sers tout le temps pour faire des mots de ces trucs-là, c'est Ori and the Will of the Wisps. Bon, voilà, le truc, il tourne en 4K sur n'importe quelle carte graphique et je peux te dire que là-dessus, c'est magnifique.
Je n'en doute pas.
Donc voilà, tout ça peut avoir aussi... de l'intérêt.
On a fait le tour
On a fait le tour. Je propose qu'on passe rapidement.
SSD.
Voilà, on va
SSD.
Faire. On va essayer de faire un petit peu plus court.
C'est pas le sujet le plus sexy de la galaxie, honnêtement, le SSD. Mais c'est un sujet extrêmement important. Notamment si on est en train de se brader une config.
Pourquoi on veut vous parler de SSD dans cette émission? Eh bien, c'est parce que une marque, on va la nommer en tant qu'affaire cruciale, vient de lancer sur le marché, tout simplement, le SSD le plus rapide du monde. Je l'ai là même. Regardez, il est là. Il est là. Voilà, ça c'est un SSD, c'est le Crucial T705, c'est un SSD PCI Express Gen 5. Il a une particularité, c'est que c'est le premier SSD PCIe Gen 5. On a l'impression que c'est encore une nouveauté, les SSD PCIe 5. Et bien celui-là, il est déjà à deux doigts de saturer le PCIe 5, tellement il va vite. Il va à 14,5 gigaoctets par seconde. Et donc, j'ai envie de te poser une petite question. Donc ça, c'est un modèle 2 teraoctets, voilà, ce petit machin-là. D'après toi, ça coûte combien?
Alors, c'est lourd, Parce que le heatsink il est imposant.
Alors le heatsink il est imposant.
J'avoue que c'est sexy d'avoir le heatsink, d'avoir le radiateur.
Ouais, le radiateur.
J'avoue que c'est sexy d'avoir le radiateur et pas seulement juste la petite carte.
Alors,
Parce que moi j'en ai un où il y a juste la petite carte.
On a le choix. Tu peux acheter le truc avec ou sans radiateur. La consigne de toute façon c'est que si tu l'achètes sans radiateur, c'est parce que tu as déjà un radiateur sur ta carte mère que tu vas utiliser. Un SSD comme ça, jamais de la vie tu l'utilises sans radiateur.
D'accord, ok. Bon, c'est sexy. Tu dis 2 Tera. Je sais même pas combien ça vaut, hein, 2 Tera pourri en SSD. Ça, je suis prêt à mettre. 2 Tera, t'en mets un. 2 Tera, c'est bien. Je mets 400 euros.
Eh ben écoute, t'es plus près que ce que je pensais. C'est 500 euros.
Ouais. Donc, ça sera à 400 euros dans 6 mois.
Pas évident. Pas évident, parce que là, c'est vraiment du...
C'est vraiment du super haut de gamme. Après, est-ce que c'est un intérêt en jeu vidéo d'avoir...
Alors justement, on va en parler. Bon, évidemment, voilà pourquoi je vais vous parler de ça. C'est certainement pas pour faire du guide d'achat. C'est évident que le prix d'une carte graphique haut de gamme ou presque... Enfin non, maintenant, c'est milieu de gamme du 500 euros. Bref, mais le prix d'une carte graphique dans un SSD, évidemment que si c'est juste pour une config de joueur, c'est ridicule. Il faut en avoir un usage.
Attends, c'est pas le prix d'une carte graphique. Une carte graphique, c'est 1000 euros maintenant.
Bah pour 500 euros, t'as déjà des trucs corrects.
Wake up, Fufu.
Tu as déjà des trucs corrects. Alors oui, je sais que toi, tu n'envisages pas de jouer à moins que 4K 120 Hz.
Tu peux avoir une 3070 comme un paysan.
Non, pour 500 euros, déjà aujourd'hui.
Et encore, je ne sais même pas si tu as une 3070 pour 500 euros. Non, t'as
pour
pas. 5,
pour entre 500 et 600 euros, aujourd'hui, tu as une 7700 XT ou une 7800 XT.
Ouais, j'achète.
Sais, voilà, toi, c'est de l'AMD.
Ouais,
donc, tu
ouais j'achète pas TI.
T'es bizarre, toi. Bref. Pourquoi parler de SSD aujourd'hui ?
Eh ben, Intérêt en jeu vidéo.
Alors, parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup d'un truc qui s'appelle Direct Storage.
Oui. Ah oui, j'allais te poser la question, oui. Et on n'en
voilà.
entend plus parler.
Pourquoi on n'en entend plus parler ?
Alors, je sais qu'il y a un jeu qui est sorti avec... Il faut rappeler que Direct Storage, c'était une API DirectX qui permettait d'accéder plus rapidement aux données qui étaient sur nos petits disques durs. Parce que Microsoft s'était dit, c'est un peu le bordel, on va faire une API bien propre pour que les jeux puissent taper très facilement dans le stockage.
De façon très exacte, en fait, surtout une API qui permet, en gros, au GPU d'accéder directement au stockage, donc, sans passer par la RAM et le CPU.
Donc, comme ça, de pouvoir lire les textures directement en prenant un petit raccourci et en disant au CPU, t'as pas besoin de t'embêter, je vais aller piocher ce que je veux dans le
et aussi, du coup, pour pouvoir faire de la décompression en temps réel, parce que les GPU, il faut savoir que c'est très très fort en décompression, beaucoup plus fort que les CPU. Et du coup, il y avait toute une idée comme quoi tu pouvais prendre ton SSD qui déjà va très vite, envoyer la donnée directement vers le GPU qui va tout décompresser et qui, du coup, ça va faire du débit de données instantané encore plus débile.
Mais c'est bien, c'est malin.
Alors, dans l'absolu, c'est extrêmement malin. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, des jeux qui utilisent Direct Storage...
Il y a Horizon Zero Dawn, je crois.
Non, alors il y a Horizon Forbidden West qui
Horizon
sort demain,
Forbidden...
du coup.
D'accord.
Et qui sera donc la suite de Horizon...
Peut-être les Forza aussi.
Forza Motorsport.
Parce que c'est un truc de Microsoft.
Forza Motorsport. Forza Motorsport est à ce jour le seul et unique jeu Microsoft à utiliser Direct Storage.
Okay.
Alors que Direct Storage, c'est quand même une API Microsoft, c'est très très fort. Au-delà de ça, on a quoi ? On a Forspoken qui a été le tout premier jeu à utiliser Direct Storage. On a Ratchet & Clank Rift Apart. New World, le MMO d'Amazon qui a été mis à jour il n'y a pas très longtemps pour ça. Il y a Diablo 4.
Ouais, mais qui joue encore à Diablo 4.
Voilà. Et puis il y a mon préféré, EA Sports FC 24, donc FIFA 24, voilà, qui utilise Direct Storage. Je n'ai pas la moindre foutue idée de pourquoi.
Gros transfert de données pour ce genre de choses. Donc en fait, ça va continuer ou c'est mort Direct Storage ou ils arrêtent ?
Alors on pense que ça va continuer. Le truc en fait, c'est que très concrètement, aujourd'hui, dans les jeux où Direct Storage est implémenté, ça ne fait pas une grosse différence. Mais la première et très simple raison pour laquelle ça ne fait pas une grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs ne peuvent pas compter dessus. Ils savent très bien qu'il y a encore beaucoup de gens, soit qui utilisent des SSD qui ne sont pas techniquement compatibles avec le Direct Storage. Des fois, simplement, c'est des SSD qui ne sont pas encore en NVMe. Les disques durs, bon, ça commence à devenir rare, mais l'air de rien, les disques durs SATA, les disques durs en 2,5 pouces, ça continue.
Plateau,
les SSD, tu parles pas des plateaux. Ça continue à être assez couramment utilisé. Et ces trucs-là ne peuvent pas utiliser Direct Storage. Donc, côté développeur, on ne se permet pas encore de compter là-dessus. Est-ce que ça arrivera un jour ? On n'a pas encore abandonné l'idée. Par contre, le truc qui commence à être inquiétant aujourd'hui, c'est que même les démos techniques, les trucs qui sont censés vraiment te mettre le truc en avant, tout ce que tu vois globalement, c'est les temps de chargement, en gros, qui passent de 1,2 secondes à 1 seconde.
Ouais.
Donc tu commences à te dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des SSD à 500 balles pour ça ? Parce que surtout, le truc qui est le plus important, c'est que les débits bruts qu'on peut mesurer avec ces machins-là et que moi-même j'ai pu mesurer. Voyez, concrètement, le plus gros kiff que j'ai eu avec ça, vas-y, mets-nous le benchmark à l'écran, monsieur Chat. Voilà, c'est d'afficher des gros chiffres comme ça sur Crystal Dismark. Mais bon, à part ça, ça c'est vraiment du truc, à part ça, ça sert absolument à rien, on va pas se mentir. Mais tu vois, genre...
Moi, de mon expérience, il y a deux jeux où, les temps de où la longueur des temps de chargement m'a un peu dérangé. Flight Simulator, évidemment. Les temps de chargement peuvent être longs. Le jeu, il peut mettre 1 minute 30 à démarrer. Et DCS, qui est un autre simulateur de vol, où pareil, entre les missions, tu peux attendre 30-45 secondes. Mais sinon, mais même
truc,
un gros jeu
truc,
comme Cyberpunk...
Le truc qui est extraordinaire, c'est que... Bah dans tous ces jeux, généralement, qui ont des gros temps de chargement, le bottleneck, en fait, l'élément limitant, ça va être, d'une part, le code,
simplement,
et puis, aussi, autrement, ça va être, généralement, le CPU.
Ouais.
Le CPU, en fait, va avoir une incidence sur le temps de chargement bien plus élevé que le stockage lui-même, parce que le stockage lui-même, de toute façon, est sous-exploité, en fait, dans ces jeux. Que dire d'autre là-dessus ? Oui, que du coup, en fait, sur les jeux qui utilisent Direct Storage pour l'instant, le truc, le point qu'on voit qui a vraiment la plus grande influence, c'est pas la vitesse brute, c'est la latence.
Ouais.
C'est-à-dire que même sur un SSD, tu vois, les mesures qu'il faut regarder, qui vont vraiment avoir un impact réel sur les performances de ton système, c'est moins le débit brut que des choses comme le nombre d'opérations par seconde.
Parce que ça, quand t'as accédé à plein de petits fichiers,
pas en
simultané, mais les uns après les autres, effectivement, il vaut mieux avoir peu de latence plutôt qu'avoir un gros débit, parce qu'à chaque fois, il va aller rechercher un...
Et ça, effectivement, ça va faire une vraie différence. Alors, pour le coup, tu vois, typiquement, un modèle comme celui-là, il a des débits extrêmement élevés, mais il a aussi...
Une latence
extraordinairement faible. Alors toujours de là à ce que ça fasse encore une fois une vraie différence en jeu. Là c'est vraiment c'est un produit d'early adopter, on va pas se mentir. C'est vraiment le truc par défaut. C'est t'as une carte mère qui est compatible avec les SSD PCIe 5 et pour le principe tu veux balancer du SSD PCIe 5 là-dedans, t'achètes ça. Mais sinon voilà, l'idée, c'est encore une fois de regarder vers l'avenir. L'avenir c'est par là.
J'ai une question.
Vas-y.
J'ai une question. Souvent, pour les SSD, on n'a qu'un seul emplacement, voire deux emplacements dans la carte mère. T'es d'accord ?
C'est de moins en moins le cas. Les cartes mères modernes, il y en a de plus en plus. Généralement, il y en a au moins trois.
Ah, il y en a trois ?
Ouais.
Moi, la mienne, il y en a un. Je l'ai acheté.
Oui, voilà. Franchement, tu achètes une carte mère aujourd'hui, il y a facilement trois emplacements en NVMe.
Et est-ce que ça vaut quand même le coup de compléter avec des SSD, tu sais, normaux, les SSD 2.5, à quel format ?
Honnêtement, aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt d'acheter du SSD 2.5 parce que c'est pas moins cher.
Et ils sont moins rapides.
Ils sont juste moins rapides et puis ils vont prendre plus de place. En plus, ça va être juste plus chiant à installer dans ta boîtier.
D'accord. Et si j'ai qu'un seul emplacement comme ça, est-ce que je peux un emplacement NVMe, comment est-ce que je peux en rajouter sur ma carte mère un peu ancienne ? Est-ce qu'il y a des cartes qui me permettent d'enfiler ça ?
Alors oui, il y a des cartes d'extension PCI Express
avec
pouvoir mettre du coup sur ton port PCIe classique. Et du coup, il y aura des NVMe là-dessus qui vont juste faire
avec 3-4 slots que tu peux... Ok, d'accord.
Ouais, bah typiquement, ouais, bah, sur une carte... le plus commun, ça va être des cartes PCIe 8 fois. Donc 8 ticks, donc à 8 lignes PCIe. Okay. Comme le NVMe, ça utilise 4 lignes, et bah du coup, dessus, tu pourras mettre 2 SSD NVMe.
Ok, en plus. D'accord. Ok.
Mais alors du coup... oui, donc toutes ces questions de le débit brut, c'est un truc. Par contre, le nombre d'opérations par seconde, la latence, c'en est un autre. Le nombre d'opérations par seconde et tout ça, c'est quelque chose qui est moins dicté par la flash, la mémoire flash, vraiment la NAND qu'il y a sur ton disque, sur ton SSD, que le contrôleur. Okay. Quand on fait le choix d'un SSD, c'est un petit peu là-dessus que je voulais conclure. En gros, quand on veut acheter un SSD aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder ? Qu'est-ce qui fait une différence ? Et bah, typiquement,
look. Bien sûr.
Le look, c'est très important.
Les LED RGB.
Ouais, bien sûr. Et le contrôleur, pour le coup, va faire une vraie différence. Entre un SSD haut de gamme et un SSD bas de gamme, souvent, la vraie différence que tu vas avoir, c'est ça. C'est que d'un côté, il va y avoir un contrôleur un peu dernier cri, qui vraiment carbure, qui chauffe pas trop fort, justement. Parce que la chauffe des SSD, c'est encore un truc assez compliqué à gérer, des fois. Et qui va vraiment vite. Et puis sur un SSD bas de gamme, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus basique. Et l'autre point important, c'est le cache. Parce que sur un SSD, en gros, quand tu as, là en l'occurrence, 2 Tera de stockage, tu ne vas pas pouvoir écrire à la même vitesse sur tes 2 Tera de stockage.
Ouais.
L'élément de base, surtout, c'est que sur ce SSD et sur la plupart des modèles de SSD aujourd'hui, tu as de la mémoire TLC. Donc la NAND qu'il y a dedans, c'est TLC, ça veut dire Triple Layer Cell.
C'est 3D, la mémoire 3D, la fameuse. Si, c'est ça. Hein
non,
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 mais
non.
Si, il y a 3 layers comme ça.
Comme
des lasagnes.
Non, c'est vraiment Triple Layer, parce que tu as aussi de la SLC.
Single Layer.
C'est
pas les lasagnes.
De la QLC.
QLC, Quantum Layer.
Quad.
Quad, ah merde.
Tout simplement.
J'y étais presque.
Mais du coup, voilà, t'as des cellules qui vont avoir plusieurs couches, et en fait, typiquement, un SSD qui a de la mémoire TLC, et ben en fait, il va remplir chaque cellule sur une seule couche au début. Il va être très rapide du coup en faisant ça. Puis une fois qu'il aura rempli toutes les cellules, il va falloir qu'il commence à remplir les couches supplémentaires. Et là, d'accord, il va tout de suite ralentir assez drastiquement.
D'accord, ok.
Selon les SSD, ce cache, il va être géré plus ou moins bien. Il va être aidé aussi des fois par de la DRAM. Il va y avoir vraiment une puce de RAM, vraiment, donc de mémoire. Généralement, ça va être de la DDR3 ou de la DDR4. Sur le SSD qui va aider du coup les échanges vraiment rapides. Et alors ça, pour le coup, c'est un truc qui était vrai à une époque que les gens ont l'air d'avoir un petit peu oublié, et pourtant c'est toujours vrai aujourd'hui. Si vous achetez un SSD avec l'objectif d'y installer un système d'exploitation, d'y installer un OS,
ouais,
faites gaffe, si vous en avez les moyens, à choisir un modèle avec du cache DRAM.
D'accord.
Parce pourquoi qu'il faut... Parce que quand tu as ton système d'exploitation installé dessus, il va justement souvent y avoir beaucoup d'échanges très fréquents avec les mêmes fichiers. Et le fait d'avoir ce cache DRAM, ça fait que ces fichiers-là, les plus importants, ils vont pouvoir rester dans la DRAM.
Ouais.
Donc d'une part, on va pouvoir y accéder d'autant plus rapidement, ça va accélérer votre boot, bon, d'une ou deux secondes, hein, c'est pas ça qui fait une grosse différence.
Mais tu sais, je fais une parenthèse, je trouve que les boots sont devenus beaucoup plus lents maintenant.
Oui, bah parce que c'est
toujours... Pendant un moment, c'était super rapide. Et là, mon PC, quand je l'allume, je peux aller boire un café. Il a toujours pas fini.
Ouais, mais ça, c'est toujours le principe du software qui commet cet exploit incroyable, qui est de toujours réussir à compenser les avancées technologiques majeures du hardware.
Ouais. Plus temps passe, le software ralentit, le hardware accélère, mais le software ralentit.
Le hardware accélère, du coup, le software se dit ah bah c'est tranquille, je peux ralentir, ouais, moi je suis au poil, tu vois.
Ouais, okay.
C'est un peu le okay, principe. Mais du coup, pour revenir sur le truc, donc des RAM importants aussi pour l'usure. Parce que pareil...
J'allais te demander, parce que pendant longtemps, on disait les SSD, c'est bien, mais attention, ça clame vite.
Et ouais, en fait, ça clame.
Autant j'ai eu des disques durs à plateau, alors ça, au bout de 2 ans, ils étaient ravagés, autant les SSD, j'ai jamais eu un souci.
Oui, mais c'est ça, en fait. Le truc qui est drôle, c'est qu'on me dit, ouais, les SSD, attention, ça peut clamser. Alors oui, effectivement, mais les disques durs à plateau aussi, voire encore plus.
Parce qu'il y a des trucs mécaniques qui pètent, ça se met à faire du bruit, ça se met à faire...
Ceci étant dit, le fait est que le truc, c'est que le disque dur à plateau, t'as pas vraiment cette notion de tu vas avoir certaines parties du disque qui vont se dégrader.
Ouais.
Alors que sur un SSD, c'est le cas. Si t'as certaines cellules qui sont beaucoup plus utilisées que d'autres, et bah, ces cellules-là vont très vite se dégrader. Le SSD va plus y avoir accès ou va y avoir des erreurs et tu vas commencer à avoir des problèmes. Le fait de pouvoir mettre ces fichiers très souvent utilisés sur ton cache DRAM, alors généralement, c'est très très faible. Hein. C'est genre du cache DRAM, il va y en avoir genre 1 giga par téraoctet de stockage sur le disque. Non, n'empêche que bah, la DRAM, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est fait pour des écritures et des lectures permanentes qui ne va pas du tout s'user. Et du coup, tu vas juste prolonger d'autant plus la vie de ton SSD
okay,
en choisissant bien un modèle
okay,
avec de la DRAM.
Allez, on est bon.
Allez, c'est bon.
C'est l'heure. Il y a Isuel qui va faire... Qu'est-ce qu'il stream, Isuel ? Il stream quoi, chez Isuel ? Ah oui, du American Truck Simulator, c'est ça ?
Ouais. Donc, ouais, exactement. Bah, en tout cas, bah, écoutez, allez, c'était une super conclusion.
C'est ton émission. Allez, vas-y.
Merci à tous, du coup, d'avoir suivi la première de contrôle technique. J'espère que c'était pas trop pénible. Hein.
Si.
C'était, ouais, bon, c'est quand même...
Non, si, non, mais objectivement. Non, mais je suis un professionnel de l'audiovisuel, je peux le dire, je me suis fait chier de A à Z. Bon, voilà.
Bah. Merci de ton soutien, Agbou, ça fait toujours plaisir, je m'y attends.
C'est pas une critique.
Ah, tu m'énerves. Bref. Oui, donc merci de nous avoir suivis. C'était la première. Moi, je vous donne du coup d'ores et déjà, enfin, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la deuxième qui aura lieu le 17 avril. Voilà, notez bien dans vos agendas le contrôle technique numéro 2. Donc oui, effectivement, restez connectés à la CTC TV, là tout de suite Zuzu qui prend le relais pour vous streamer du American Truck Simulator, il va tenir comme ça, il va vous occuper jusqu'à 20h, et puis à 20h bien sûr, le clou du spectacle, vraiment le prime time, vraiment les stars,
welcome,
les vraies stars,
welcome
les vraies
to
stars
the
de
shit
Canard
show.
PC qui arrivent
avec Sebum, Julie, Sebum, Hélène Ripley, Yvan Le Fou,
Yvan,
qui est là. Il est là-haut, là.
Il est en train de se préparer,
il fait ses exercices.
Là, j'imagine qu'il est en train de se prendre la tête à deux mains en disant qu'est-ce que c'est que cette catastrophe que j'ai lancée.
Et 20h30. 20h-21h30, pareil. 21h30, on plie les gaules, on rentre chez nous.
Parfait. Merci encore de nous avoir suivis. À la prochaine. Et dites bonjour de notre part à Isu.
Ciao tout le monde.